VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, lundi 9 juillet 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, violence au Cameroun, des tirs entendus à Boya dans la région anglophone du sud-ouest. Lutte contre Boko Haram au Niger, 17 militants du groupe islamiste ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison. L'Éthiopie et l'Érythrée déclarent ne plus être en guerre.
Monsieur Ahmed est venu et il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher. Il y avait une guerre froide.
Soudan du Sud, l'accord entre belligérants est rejeté par les rebelles de Riek Machar. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, l'élection présidentielle a été fixée au 7 octobre selon un décret du président Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont 35 au pouvoir, il n'a pas annoncé s'il serait candidat à une 7e réélection, mais ses partisans le présentent comme le candidat idéal de la majorité présidentielle. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, parti anglophone, a désigné son candidat en la personne de Joshua Ossi. Dans le même temps, la situation reste tendu à Boya, capitale de la région anglophone du sud-ouest, où de nombreux coups de feu ont été entendus aujourd'hui, selon des témoins. De violents combats ont opposé les séparatistes anglophones aux forces de défense et de sécurité. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Depuis le déclenchement de la crise anglophone, c'est la première fois que de violents combats ont eu lieu dans la ville de Boya. Un responsable d'une organisation humanitaire locale, joint par VOA Afrique, a signalé des affrontements dans les quartiers de Moliko, à Albert Moukont Avenue, plus connu sous l'appellation de Mile 17. C'est à cet endroit qu'un officier et un inspecteur de police ont été froidement abattus par des hommes armés, confirme une source de sécurité. Des hommes armés qui ont envahi la ville de Boya le matin, sémant un vent de panique générale. Un autre témoin à Boya a rapporté à VOA Afrique avoir vu d'épaisses couches de fumée depuis le lieu dit Bomaka aux premières heures de la matinée. L'armée a repris le contrôle de la ville peu avant 12 heures temps universel et le calme est revenu à Boya, rassure une autorité administrative. Depuis l'extradition des leaders sécessionnistes du Nigeria, la journée de lundi a été décrétée par les séparatistes comme jour ou ville morte en zone anglophone. Un chauffeur de taxi de la localité de Bambui, non loin de Bamenda, dans le nord-ouest, qui a bravé ce mot d'ordre, a vu son véhicule calciné par de jeunes gens, rapporte une autorité administrative du Nord-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, le parti de l'opposant Jean-Pierre Bemba estime qu'il n'y a aucune entrave à sa candidature à la présidentielle prévue le 23 décembre. Le MLC tiendra son congrès les 12 et 13 juillet à Kinshasa. L'investiture des candidats aux élections présidentielles et législatives est à l'ordre du jour. Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre 2002 et 2003. Mais le 8 juin, un jury d'appel a ordonné sa mise en liberté, l'acquittant à la surprise générale. RDC toujours, 16 pêcheurs congolais manquent à l'appel à la suite de tensions ayant causé la mort de 14 personnes sur le lac Édouard que se partagent le Congo et l'Ouganda. Il y a chasse à l'homme de la part de la marine ougandaise, impossible même d'aller chercher les corps des pêcheurs congolais tués par les Ougandais. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Une délégation composée de membres de Beni a quitté cette localité aujourd'hui pour la capitale ougandaise, Kampala. Sénégal, un tribunal de Dakar a rejeté une nouvelle demande de renvoi du procès en appel de l'opposant et maire de la capitale, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. La défense justifie sa nouvelle demande de renvoi de quelques jours par un arrêt de la CDAO. Selon la défense, cet arrêt a conclu au caractère arbitraire de sa détention préventive ainsi qu'à la violation de sa présomption d'innocence et de son immunité parlementaire. Cette décision s'impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation, toujours selon la défense. Tant que sa condamnation n'est pas définitive, le maire de Dakar, 62 ans, reste éligible pour l'élection présidentielle de février 2019 face au chef de l'État sortant, Macky Sall, selon des juristes. Au Niger, 17 militants de Boko Haram ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison à l'issue d'une semaine de procès à Diffa, dans le sud-est du pays. Le point avec Yakouba Ouédraogo.
Sur les 42 prévenus, 17 ont été coupés de 2 à 7 ans de prison, 21 ont été relaxés. Le jugement des 4 autres a été renvoyé à la mi-octobre, d'après Chaïbou Samna, procureur au tribunal de grande instance de Niamey. Les concernés sont essentiellement des Nigériens, des Maliens et des Nigérians. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Certains ont été arrêtés lors de combats ou de contrôles en vertu de l'état d'urgence imposé dans la région de Diffa, frontalière du Nigeria. Les premiers procès de membres présumés de Boko Haram se sont tenus en mars 2017 à Niamey. Plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des peines de 3 à 9 ans de prison et d'autres relaxés faute de preuves. Cette année, les procès ont été délocalisés à Diffa, théâtre depuis 2015, de nombreuses attaques de Boko Haram. Depuis décembre 2016, 200 combattants nigériens de ce groupe djihadiste se sont rendus aux autorités. Ils sont internés dans un camp d'accueil où ils doivent suivre un programme de déradicalisation, puis bénéficier d'une amnistie avant de retrouver leurs proches.
L'Érythrée et l'Éthiopie ont signé aujourd'hui à Asmara une déclaration conjointe de paix et d'amitié formalisant leur rapprochement et mettant fin à 20 ans d'état de guerre. Le document confirme la reprise du commerce, des transports et des télécommunications, le rétablissement des relations diplomatiques et la mise en œuvre de l'accord international de 2000 sur la frontière commune. Nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission. Au Soudan du Sud, les rebelles ont rejeté ce lundi un plan de paix qui vise à rétablir le chef insurgé Riek Machar dans ses fonctions de vice-président. Ils estiment que cette mesure en soi n'entame en rien ce qu'ils qualifient de mainmise du président Salva Kiir sur le pouvoir. Les précisions de Jacques Aristide.
L'accord faisant de nouveau de Riek Machar le premier vice-président a été trouvé à Entebbe en Ouganda. Lors de pourparlers sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni, un responsable de l'organisation rebelle de Machar, le SPLM-IO, a cependant indiqué ce lundi que ce pacte n'était pas acceptable. Pour Pouok Bot Balwang, porte-parole adjoint du groupe, les rebelles doivent nommer 2 des 4 vice-présidents comme envisagé par l'accord d'Entebbe, et Salva Kiir doit lâcher davantage de pouvoir. Dans ces négociations, nous ne baisserons pas la garde juste pour le poste de premier vice-président. Nous nous concentrons davantage sur les problèmes structurels et institutionnels afin de limiter les pouvoirs du régime Kiir à la fois au sein de l'exécutif et du Parlement, a-t-il dit. On ignore s'il s'exprimait au nom de Riek Machar. L'accord d'Entebbe, s'il venait à être entériné par les rebelles, marquerait un progrès notable dans les efforts de médiation destinés à en finir avec la guerre civile qui oppose pour l'essentiel l'ethnie des Dinka de Salva Kiir aux Nuer dont fait partie Riek Machar. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, les sauveteurs ont évacué 4 nouveaux jeunes footballeurs coincés dans une grotte inondée. Il ne reste que 4 enfants et leur entraîneur qui sont encore coincés, Claire Morin-Gibourg.
La Thaïlande tout entière retient son souffle. Le pays espère une issue heureuse pour les derniers enfants coincés et leur entraîneur de 25 ans. Cette jeune équipe de foot est restée bloquée depuis le 23 juin dans la grotte de Tuam Luang, dans le nord du pays. Le chef de la cellule de crise a promis en début d'après-midi de bonnes nouvelles dans quelques heures. Le chef de la junte au pouvoir, le général Prayut Chan-o-cha, est attendu sur place. La pluie de mousson menace d'inonder ce réseau souterrain complexe long d'une dizaine de kilomètres. C'est le principal défi pour les sauveteurs qui redoutent de nouvelles précipitations avant la sortie de tout le groupe. La situation est compliquée par le fait qu'une bonne partie des enfants ne savent pas nager et qu'aucun n'a jamais fait de plongée. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise est mort au début des tentatives de sauvetage, ce qui témoigne des dangers de l'opération.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Le principal syndicat gabonais du secteur pétrolier a lancé ce lundi un mot d'ordre de grève de 15 jours à Total Gabon. C'est à la suite de l'échec de négociations sur les conditions salariales. Le groupe emploie quelques 300 personnes, dont 60 expatriés. En 2017, il avait réduit de ses activités de 350 millions de dollars au profit de la société franco-britannique Perenco, cinquième producteur d'or noir en Afrique subsaharienne. Le Gabon a atteint en 1997 18,5 millions de tonnes. Depuis, il produit moins de 12 millions de tonnes pompées chaque année. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a relancé un projet de méga barrage hydroélectrique sur le Zambèze pour 4,5 milliards de dollars. La construction de ce barrage d'une puissance de 1600 MW doit permettre de créer 6000 emplois. Le Zimbabwe produit 1200 MW d'électricité, mais doit importer les 200 MW supplémentaires de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Le FMI a validé un prêt à la Tunisie de plus de 249 millions de dollars. Cela porte l'enveloppe du FMI à Tunis à plus d'un milliard de dollars. C'est dans le cadre du programme d'aide sur 4 ans signé en 2016. Les réformes visent à réduire les déséquilibres macroéconomiques, à assurer une protection sociale adéquate et à encourager la création d'emplois par le secteur privé, à réduire les déficits budgétaires et courants, à inverser l'accumulation de la dette et à accroître l'investissement et les dépenses sociales.
Bonsoir à tous. Veillée d'armes en Russie avant la première demi-finale demain entre la France et la Belgique. La France, championne du monde 98, a sur le papier plus d'expérience que la Belgique, qui n'a plus atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde depuis 1986. Les deux équipes sont arrivées ce lundi à Saint-Pétersbourg pour ce match qui sent la poudre. Et à noter, côté français, lors de l'ultime séance des Bleus sur la pelouse du stade Krestovski, Kylian Mbappé était absent par précaution, tandis que N'Golo Kanté et Benjamin Pavard, déjà ménagés la veille, se sont contentés de trottiner en compagnie d'un kiné. Allez, on écoute Antoine Griezmann, l'attaquant français.
Là, on est à 90 minutes de jouer une finale. Donc voilà, on va tout faire pour passer et faire un gros match aussi. Ils sont en train de faire un bon parcours et ça va être à nous de les stopper et de bien travailler défensivement. Que ça soit bloc bas ou bloc haut, mais voilà, va falloir répondre présent.
Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France. En face, les Diables Rouges sont en confiance après l'élimination du favori brésilien en quart de finale. Et cette première demi-finale France-Belgique a inspiré Jules Valentin Gouy pour son coup de sifflet.
Les premiers de cordée sont la Belgique et la France dans un derby fratricide qui oppose logiquement les équipes les plus impressionnantes de cette fin de compétition, désormais en phase terminale. La Belgique aligne la meilleure attaque du tournoi. La France, elle, présente les garanties défensives les plus évidentes, ce qui constitue un atout fondamental dans les matchs serrés et équilibrés où il ne fait pas bon encaisser le premier but. Par ailleurs, lors de la dernière rencontre face à l'Uruguay, la sélection tricolore a encore élevé son niveau de jeu, faisant montre d'une maîtrise retrouvée, d'une sérénité et d'une patience qui caractérisent déjà les équipes qui veulent aller jusqu'au bout. C'est incontestable, la France, au regard de son tableau de chasse, a déjà revêtu le costume du favori de la dernière ligne droite. Et c'est là où le bas blesse, car la Coupe du Monde, au cours de sa longue histoire, a rarement souri aux favoris. La France devra donc se méfier d'une Belgique revancharde à souhait, sans aucune pression, pétrie de talent offensif, mais qui a aussi démontré contre le Brésil, une équipe tactiquement proche du jeu français, ses capacités tactiques, son efficacité, avant de prouver en deuxième mi-temps qu'elle pouvait aussi gérer ses temps faibles. La clé de la rencontre se trouve donc, une fois de plus, dans le scénario du match. Alors, patience. À bientôt.
Merci Jules, et à noter que la deuxième demi-finale aura lieu demain entre l'Angleterre et la Croatie. Enfin, sachez que Luis Enrique a été nommé nouveau sélectionneur de la Roja, l'équipe d'Espagne qui avait été éliminée, souvenez-vous, par la Russie en huitième de finale. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur la compétition demain matin et 24 heures sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook.
Le journal de la Coupe du Monde, merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgan Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'Éthiopie et l'Érythrée ont décidé d'enterrer la hache de guerre après des années de tensions militaires et diplomatiques. Les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, une des crispations qui pourra avoir des retombées sur les deux pays. Pour analyse, Idriss Fall adjoint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines au département d'État américain.
Oui, c'était le changement de premier ministre en Éthiopie. Monsieur Ahmed est venu, il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher. Il y avait une guerre froide. L'Éthiopie n'utilisait pas les ports d'Érythrée, donc ils étaient obligés d'utiliser Djibouti, qui était très, très loin. Donc lui, M. Ahmed a dit, c'est ridicule de continuer comme ça. Il faut normaliser les relations. C'est gagnant-gagnant.
Qu'est-ce que l'Érythrée gagne dans tout ça?
D'abord, ils sont plus obligés d'avoir des milliers et des milliers de soldats sur la frontière. Ils peuvent utiliser ces hommes pour des autres choses, pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Deuxième, il n'y avait plus de commerce pendant 20 ans. Chaque côté perdait beaucoup d'argent. Maintenant, on peut recommencer le commerce. Et aussi, ils avaient des mauvaises relations avec les États-Unis à cause de ça. Les États-Unis ont besoin d'Érythrée parce qu'ils sont sur la mer Rouge, en face de Yémen et tout ça. Donc, c'est très important pour que l'Amérique normalise aussi avec Érythrée.
Et l'Éthiopie va gagner quoi?
L'Éthiopie, c'est la même chose. Ils peuvent retirer les soldats sur la frontière. Ils peuvent recommencer le commerce. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent avec l'absence de commerce. Et aussi, ils peuvent travailler ensemble avec Érythrée contre les islamistes, contre Al-Shabaab en Somalie. Tous les deux sont très contre l'islam révolutionnaire, tout ça. Ils peuvent travailler ensemble.
Et la ville de Badme, qui était un contentieux réglé par les accords d'Alger, mais les soldats éthiopiens sont toujours présents là-bas, hein, même si l'Éthiopie envisage rendre Badme à Asmara.
Oui, l'Éthiopie a accepté l'arbitrage qui était fait sur la frontière en Algérie. Et c'est-à-dire Badme appartient à Érythrée. Donc, ils ont dit, nous acceptons maintenant la solution de l'arbitrage. Donc, ils seront obligés dans quelques jours de rendre Badme à Érythrée.
Est-ce que l'Éthiopie aussi ne va pas gagner un peu avec son grand barrage sur le Nil?
Oui, mais ça n'a pas d'impact sur Érythrée. Mais ils peuvent travailler ensemble pour coopérer avec l'Égypte. C'est un grand danger pour l'Égypte s'ils perdent de l'eau, parce que l'eau du Nil, c'est la vie pour l'Égypte. Donc, il faut trouver des solutions et Érythrée a des bonnes idées là-dessus.
Et c'était Herman Cohen, joint ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les positions se durcissent et les perdants dans ce bras de fer sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat. Le gouvernement menace d'appliquer une loi portant sur la restriction du droit de grève au Tchad. Suivons le reportage d'André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, N'Djamena.
Après plusieurs tentatives de négociation avec les responsables de la plateforme syndicale revendicative sans compromis, le gouvernement ferme la porte au dialogue. Il accuse en même temps ses responsables d'être manipulés par les hommes politiques sans donner plus de détails. Doulé nous dit Alix Naimbaï est le porte-parole du gouvernement.
Cette manière d'agir, peu orthodoxe, diligentée par certains responsables syndicaux, bien connus et instrumentalisés, ne vise qu'à saper le bon fonctionnement de l'État et à remettre en cause la trêve sociale issue de l'accord du 14 mars 2018.
Réplique du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel. Pour lui, c'est le contraire.
Le blocage des négociations était provoqué par le gouvernement lui-même. Les membres du gouvernement sont manipulés par des hommes politiques de la majorité présidentielle qui empêchent au ministre de discuter avec nous. C'est ceux-là qui font les jeux, il faut le dire.
La persistance de cette grève dans le secteur public est inadmissible, estime le gouvernement, qui menace d'appliquer la loi 32 réglementant le droit de grève au Tchad, laquelle loi stipule en son article 15 que les journaux prestés pour cause de grève ne donnent pas lieu à une rémunération. Les salaires des journaux non prestés sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève. Fin de citation. La réaction du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel ne se fait pas attendre.
Cette loi est en relecture et nous avons envoyé une requête au Bureau international du travail qui demande au gouvernement de revoir les parties querellées. Pour nous, le gouvernement n'a pas de proposition. Il faut menacer. C'est ça ce que ça veut dire.
C'est dans cette condition que le gouvernement continue d'organiser les examens et concours de fin d'année. Il a réussi à diviser le syndicat des enseignants du Tchad. Coup de gueule de quelques enseignants qui résistent à cette manipulation.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
Rappelons que lors de la première grève de la plateforme syndicale en janvier dernier, le gouvernement avait instauré un système de listes journalières pour contraindre les grévistes à aller au travail. Chose que le cinéaste Haroun Mohamed Saleh, alors ministre de la Culture, avait refusé et cela aurait précipité son départ du gouvernement. Reste à savoir si les ministres de la 4e République qui ont tous juré au nom d'Allah ou Dieu le Tout-Puissant auront la conscience tranquille pour exiger cette liste à leurs concitoyens qui ne revendiquent que leurs droits. André Kotumadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, des mouvements d'humeur se produisent régulièrement sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football que doit arbitrer ce pays en 2019. Le plus récent a concerné des ouvriers et des chantiers de Garoua dans le nord du pays. Principale revendication, des arriériés de salaire qui varient selon les grévistes entre 4 et 6 mois. Et c'est le troisième mouvement d'humeur enregistré depuis le début de l'année sur l'ensemble des chantiers de la Cannes 2019. Reportage Emmanuel Juntap depuis Yaoundé.
Deux jours de colère de près de 800 ouvriers engagés sur les chantiers de la Cannes 2019 par la société Prime Potomac à Garoua, au nord du Cameroun.
Je suis à 5 mois sans salaire.
Chaque jour qu'on nous promet que tel jour on vous appelle, on arrive, on ne donne rien.
Quelqu'un travaille 6 mois, on ne lui paye même pas 5 francs. Je vis comment?
Qu'on nous régularise et nous, on ne travaille même plus. On rentre à Yaoundé, on va rentrer chez nous.
Prime Potomac, la société qui les emploie, doit livrer 4 terrains d'entraînement, réhabiliter un hôtel et construire un autre de 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres. La société, dit-on, ne recevrait plus les paiements de l'État, ses comptes étant bloqués, d'où le malaise que vivent les ouvriers grévistes. Et Dibi Nkolo, directeur général de la société Prime Potomac.
Nous recevons de l'argent de l'État, mais la procédure, c'est de déposer les décomptes et que ces décomptes soient signés à temps et conduits jusqu'au paiement. On avait un effectif de 4500 ouvriers, compte tenu du fait qu'on a acquis du matériel qui nous permet d'avancer des travaux au niveau le plus élevé. On était obligé de libérer 3000, mais ils étaient tous payés au mois de mars.
En fin juin dernier, certains ouvriers du chantier du stade, qui devra abriter le match d'ouverture de la CAN à Olembe, en banlieue de Yaoundé, ont observé deux jours de cessation d'activité. Situation similaire en début d'année 2018 sur le chantier du stade de Japoma. Célestin Bama, de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun, dénonce les contrats iniques ficelés sous le dos des ouvriers camerounais.
Il y a un melting pot. Même le ministère du Travail vous dit haut et fort qu'il n'arrive pas à avoir la maîtrise de cette sous-traitance. Vous avez un employeur utilisateur et il y a un autre qui joue l'écran et qui vous dit « je ne peux pas prendre sur moi de payer un franc à ce travailleur parce que je n'ai pas traité ça avec l'autre ».
La troisième mission d'inspection de la CAF est attendue au Cameroun dans le prochain jour, annoncé également le cabinet d'audit Roger Berger qui viendra jauger les infrastructures du Cameroun pour la CAN. La ville de Garoua est l'une des étapes de cette visite d'inspection. Jean Abaté, gouverneur de la région du Nord, président du comité local de supervision des infrastructures.
Le travail se déroule sur l'ensemble des sites de Garoua en toute sérénité. Les différents chantiers évoluent. Comme toute entreprise, il peut y avoir un certain nombre de petites difficultés.
Pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de la CAN, le premier ministre du Cameroun effectue une visite des différents chantiers cette semaine. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au moins 4 morts, des dizaines de blessés, une ville saccagée. C'est le dernier bilan des violences qui secouent la capitale haïtienne, Port-au-Prince, depuis 2 jours, suite à l'annonce d'une hausse des prix du carburant. Le pays s'est réveillé aujourd'hui dans un calme précaire, nous explique Obed Lamy, journaliste et chef d'édition de la plateforme Info Citoyen.
Alors ce matin, on est réveillé dans un capital qui est plutôt calme, mais c'est un calme quand même suspect. Les entreprises ne fonctionnent pas, les gens sont restés à la maison et le transport ne fonctionne pas. Parce qu'on a annoncé 2 journées de grève, ce lundi et demain mardi, qui est observé, largement observé. Mais c'est plutôt aussi cette peur qui empêche la population de vaquer à ses activités, parce que au vu de toutes les scènes de violence qu'il y avait vendredi soir, samedi jusqu'à dimanche matin, et tout le monde essaie de protéger sa vie. Il y avait des tirs nourris dans plusieurs quartiers au niveau de Pétionville, au centre-ville. Donc, on essaie de se protéger.
Mais quelles ont été les raisons à l'origine de ces manifestations?
Bon, évidemment, c'est l'annonce du gouvernement de l'augmentation des prix des produits pétroliers de l'ordre de 38% à 51%. Cette mesure est imposée par le Fonds monétaire international qui a signé un cadre de référence avec l'État haïtien en février dernier pour l'exiger de supprimer certaines subventions et afin qu'on puisse éviter les déficits budgétaire que connaît l'État haïtien chaque année.
Mais l'État est revenu sur sa décision, n'est-ce pas?
Oui, le gouvernement a été contraint de revenir sur sa décision que le gouvernement a suspendue jusqu'à nouvel ordre, faut-il le préciser, la mesure. Et c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on pourrait revenir sur la décision. Et malgré ça, malgré l'annonce du Premier ministre et malgré l'adresse à la nation du président dans la nuit du samedi, ça n'a pas forcément calmé la population parce qu'on sent qu'il y a vraiment au fond une insatisfaction généralisée. Il y a plein d'autres revendications. Donc la mesure d'augmenter le prix de l'essence n'a été que la dernière goutte d'eau qui a fait renverser le vase.
Mais dites-moi, est-ce que la défaite du Brésil au Mondial 2018 n'a pas été l'une des causes du caractère virulent de ces manifestations puisque Haïti est un vrai supporter de l'équipe brésilienne?
Oui, au fait, on ne va pas dire que la défaite du Brésil a été la cause, mais plutôt a facilité le soulèvement parce que, oui, en Haïti, la grande majorité de la population est fan du Brésil. Le fait que le Brésil soit éliminé, les fanatiques n'ont donc aucun intérêt à continuer à suivre le mondial. Donc maintenant, ils sont libres, ils ont le temps de faire entendre leur voix.
Ils ont jeté leur dévolu sur le gouvernement.
Exactement, c'est un peu ça.
Le journaliste haïtien Obed Lamy, joint par Irénée Herman Umbo. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Joe Gill. À la présentation, Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.